c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía que me hiciste.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de beaucoup, beaucoup de sujets, si le temps nous permet. Donc, nous allons parler de ce pays d'Amérique centrale, El Salvador. Nous allons parler des problèmes graves en Équateur. Par deux fois, on va aborder l'Équateur. Et nous allons aussi parler du narcotrafic de partout dans le monde et aussi en France. Voilà donc ce que nous allons vous parler. Et peut-être on va finir avec le carnaval du Brésil. Mais je laisse la parole à Béatrix pour nous parler de la réélection de Nayib Bukele.
Oui, sans surprise, consacre un régime autoritaire. Le 4 février, les Salvadoriens étaient appelés aux urnes. Et c'est sans suspense que Nayib Bukele a été réélu haut la main pour un second mandat. Les principaux instituts de sondage le donnaient déjà vainqueur à hauteur de 88% des voix, en dépit du tournant autoritaire de sa politique. Grand adepte de la communication par les réseaux sociaux, la stratégie de Nayib Bukele n'est pas sans rappeler les méthodes de Donald Trump. Désormais reconduit pour 5 ans, sa popularité repose avant tout sur ses efforts pour restaurer l'ordre public mené durant son précédent mandat. Le sociologue Thierry Maire indique « Il a ramené la paix dans le pays, mais plus de 70 000 personnes ont été arrêtées en 2 ans depuis le début de sa guerre contre les gangs en mars 2022. » Le calme est revenu dans les rues des principales villes du pays. Tous éprouvent un sentiment de changement complet d'époque. Ce succès se fait au prix d'un système judiciaire et démocratique affaibli lorsque Bukele fait primer les droits de l'homme de la population sur ceux des délinquants. C'est un discours populiste, certes, qui correspond aux attentes populaires.
Thank you. Vous êtes venu à l'écoute d'une émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons aborder ces pays de l'Amérique presque centrale, l'Amérique du Sud, l'Équateur, avec la violence liée au crime organisé.
La situation équatorienne de ces dernières années est complexe. L'augmentation de la pauvreté, les nouvelles routes mondiales de la drogue et l'émergence d'une narco-bourgeoisie locale avancent dans le contexte d'une crise mondiale du capitalisme dans sa version néolibérale, entraînant la rupture du pacte social entre les classes. Dans ce scénario, le gouvernement de Daniel Noboa, de droite, a décidé de faire face à la vague de délinquance liée au trafic de drogue qui submerge l'Équateur, en déclarant un état de conflit armé interne. Le principe qui guide les actions du gouvernement semble être que la violence se résout par plus de violence, ce qui témoigne de la volonté de discipliner la société par la mort. L'expérience mondiale de plus de 40 ans de guerre contre la drogue s'est révélée être un échec. L'industrie des psychotropes s'est développée, tout comme la population de consommateurs et le blanchiment d'argent. La prolifération du trafic de drogue en Équateur est une manifestation agressive de la dégradation du capitalisme néolibéral et marque un point de non-retour entre la barbarie et une transformation profonde du pays. Elle met face à face la narco-bourgeoisie et les secteurs d'en bas, dont la principale référence est le mouvement indigène. Et nous allons encore parler de l'Équateur parce que dans l'État, on parlait d'un havre de paix, n'est-ce pas, Béatrix ? Oui, qui est devenu le plus violent du monde. Qui l'eût cru ? La célèbre phrase prononcée en 1991 par le président de l'époque, Rodrigo Borja, 1888 à 1992, lors de la conférence Paix pour le développement, est répétée 10 ans plus tard par un autre président, Gustavo Noboa, 2000-2003, dans son rapport à la Nation de 2002, selon laquelle l'Équateur serait un havre de paix dans le monde, a complètement perdu de son sens au début de la troisième décennie du XXIe siècle. En effet, ces dernières années, l'Équateur est devenu l'un des pays les plus violents au monde, non loin de la Syrie, de l'Irak ou de l'Afghanistan. Il y a moins de 5 ans, en 2019, l'Équateur était considéré comme l'un des pays les plus sûrs d'Amérique latine. Début janvier dernier, le président Daniel Noboa, fils de Gustavo Noboa, dont le mandat a démarré en novembre 2023, a proclamé l'état d'urgence et annoncé la mise en place d'un couvre-feu dans l'ensemble du pays, à la suite de l'évasion d'un chef du plus important groupe criminel d'Équateur. Se sont ensuivis des affrontements très violents entre les forces de l'État et les organisations criminelles. Ce fut une démonstration éclatante de la puissance de feu dont disposent les gangs. Il ne s'agit pas d'incidents isolés. Ce à quoi on assiste ne peut être qualifié que de guerre entre les groupes criminels et l'État, avec pour enjeu le contrôle du territoire et des populations. Ce sont avant tout les citoyens équatoriens qui en paient le prix. Un climat d'insécurité et de méfiance s'installe dans la société, exacerbé par les médias et les réseaux sociaux.
Thank you.
Alors, nous allons parler maintenant d'un problème qui touche aussi la France au sujet du narcotrafic.
Dans son rapport sur l'état de la menace, l'Office anti-stupéfiant décrit le rôle des groupes criminels étrangers et français. Il pourrait s'agir d'un rapport d'analyse économique vantant un marché à la croissance sans pareil. L'histoire a succès d'un produit dont la valeur est multipliée par 30 après qu'il a traversé l'Atlantique. C'est d'ailleurs sur le constat d'une réussite agricole sud-américaine que s'ouvre la version 2023 de l'état de la menace liée au trafic de stupéfiants, une étude de 80 pages décryptant les enjeux du narcotrafic en France. Selon l'étude, la production massive de coke, ajoutée à celle des autres drogues, cannabis, héroïne, mais aussi aux substances de synthèse fabriquées en Europe, constitue les ferments des trafics de stupéfiants touchant la France. À la fois pays de transit et de consommation à la circulation interne de drogue, elle s'affirme aujourd'hui comme un théâtre d'action majeur des groupes criminels organisés. Les organisations criminelles françaises dévolues à la distribution au détail lorgnent elles aussi l'importation et la vente en gros. Le démantèlement d'un point de vente lillois en janvier 2023 a dévoilé comment les criminels avaient adopté les pratiques de très haut niveau pour faire fructifier les 30 000 euros générés chaque jour, donc des moyens de communication sécurisés. L'autre versant de ce marché illicite prend la forme d'une série de plusieurs armes de guerre récupérées dans un appartement nourrice de Montpellier en mars 2023.
Alors, nous allons parler maintenant, après les problèmes de narcotrafic en France, nous allons parler des problèmes de la démocratie qui est en retraite en Amérique latine.
Selon l'indice de démocratie publié par l'unité de recherche The Economic, la région a subi une baisse de la qualité démocratique, notamment en raison des projets politiques autoritaires encouragés par les crises de sécurité. Le monde est tourmenté par une ère de guerre et de conflits internes qui sapent encore davantage la stabilité des démocraties et l'Amérique latine ne parvient pas à échapper à cette tendance. De moins en moins de Latino-Américains vivent dans ce qui est considéré comme une démocratie complète. Alors qu'en 2022, ce groupe représentait 4% de la population régionale, il représente désormais à peine plus de 1%. La grande majorité, 54%, vit dans un modèle de démocratie imparfaite, 35% dans des régimes hybrides et 9% sous des régimes autoritaires. La démocratie en Amérique latine est constamment menacée par l'intensification de la violence liée aux principaux défis de sécurité tels que le crime organisé et le trafic de drogue. Deux autres facteurs ont également influencé le score régional. D'une part, les tentatives de coup d'État, en référence à l'instabilité politique qu'a connue le Guatemala, après la victoire du président actuel Bernardo Arevalo, dont la passation de pouvoir a été contestée par des décisions judiciaires cherchant à empêcher son investiture. En second lieu, les élections présidentielles en Argentine en 2023 ont été les plus polarisées de l'histoire récente du pays, opposant deux populismes extrêmes, l'un de droite et l'autre de gauche. Cela a porté les niveaux de confrontation à des niveaux inédits sur l'avenir de la démocratie argentine.
On vient à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et je vais vous livrer quelques infos qui nous sont parvenues seulement hier sur la résurgence du conservatisme, des autoritarismes en Amérique latine. Et ça aura lieu à la Maison de l'Amérique latine à Paris, parce que nous avons été contactés justement pour annoncer que la conférence débat organisée par Monica Baltodano, commandante de la guérilla sandinista, et Jean-Jacques Courliancy, que nous avons dans l'état interviewé ici à RLP. Et cette conférence donc inaugure un cycle de 3 événements autour d'offensives réactionnaires et autoritaires en Amérique latine. C'est un événement aux places limitées. Nous vous conseillons donc de vous inscrire, voilà, à la Maison de l'Amérique latine. Vous le trouvez sur Internet. Et il y a aussi le problème de quoi? Je trouve concert, c'est pas ça. Et on nous parle encore de Bukele officiellement réélu, ça on le savait déjà. Et des internautes appellent le British Museum à restituer les statues de l'île de Pâques. Des milliers d'internautes chiliens unis contre le British Museum. Et depuis plusieurs semaines, les réseaux sociaux du musée londonien sont inondés de commentaires en espagnol. Ces posts réclament la restitution des statues Moai originaires de l'île de Pâques, une province du Chili. Ça, on le sait très peu que l'île de Pâques, c'est une position du chilienne. Deux de ces monuments ont été expoliés par les Britanniques en 1868. C'est une notice triste pour certains, mais par d'autres c'est un peu indifférent. L'ancien président du Chili, Sébastien Piñera, est décédé dans un accident d'hélicoptère. Voilà donc quelques infos très brèves de ce continent latino-américain. Mais nous allons passer à un sujet peut-être un peu plus gai. Au Brésil, et ce carnaval consacré aux femmes noires.
Oui, cette année, plusieurs écoles avaient choisi de rendre hommage à des héros afro-brésiliens ou aux peuples indigènes. Honneur aux femmes noires, l'école de Samba Viraduro a été sacrée championne du carnaval de Rio de Janeiro mercredi 14 février grâce à un défilé sur la force des femmes noires. Le thème du défilé était le culte d'un serpent sacré vénéré par les guerrières Mino qui défendaient le royaume d'Ahomey où se trouve le Bénin aujourd'hui, d'où sont partis de nombreux esclaves envoyés de force au Brésil. Viraduro a par la même occasion rendu hommage aux femmes afro-brésiliennes dans un pays où le racisme perdure et où 56% de la population est noire ou métisse. Viraduro a fait la course en tête de bout en bout, alors que les notes des jurés ont été égrenées une à une pendant plus d'une heure lors d'une cérémonie diffusée en direct par TV Globo, la chaîne la plus regardée du Brésil. Elle était la dernière des 12 formations à défiler quand le soleil commençait à se lever après 2 nuits d'un spectacle grandiose au Sambodrome. Enceinte aux 70 000 places créées il y a 40 ans par l'architecte Oscar Niemeyer. Viraduro a ainsi remporté son 3e titre et a été salué par une explosion de joie à Niterói, ville de banlieue de Rio, où est installée cette école fondée en 1946.
Oui, merci Béatrice. Juste aussi, on a reçu l'information de l'Argentine où le train de réforme ultralibéral du président argentin Milei est désormais en débat au Congrès. La colère sociale monte et les manifestations sont violemment réprimées. Des députés d'opposition ont quitté l'hémicycle jeudi 1er février pour dénoncer la répression. Il y a aussi une information qui nous arrive du Brésil. Alstom condamné pour l'effondrement d'un chantier de métro. Et ça, c'est une info qui nous arrive de Radio France Internationale de Paris. Le constructeur français Alstom a été condamné avec d'autres entreprises et responsable à une amende collective de près de 45 millions d'euros par un tribunal brésilien pour un effondrement ayant fait 7 morts sur le chantier d'une ligne de métro à São Paulo, mais c'était en l'année 2007. Voilà donc ce que nous pouvons vous informer sur l'Amérique latine, dernière info qui nous sont arrivées, mais nous allons finir notre émission avec de la musique de carnaval du Brésil.
Disseram que o samba se perdeu. Onde será que ele está? Dizem que ele foi seguindo adiante, sem consultar a ninguém. Pra entender o samba, você não precisa sair de onde está. O samba tá aí, o samba tá. Tá no sangue daquele que sabe sambar. O samba tá aí, o samba tá. Tá no sangue daquele que sabe sambar. Te falei, mas disseram. Disseram que o samba se perdeu. Onde será que ele está? Dizem que ele foi seguindo adiante, sem consultar a ninguém. Pra entender o samba, você não precisa sair de onde está. O samba tá aí, o samba tá. Tá no sangue daquele que sabe sambar.
O samba tá aí.
Que beleza, velha guarda da
mãe.
Alô, minhas pastoras. De Ramos, no sovaco também tá. Tá no pé da Igreja da Penha, no trem da Central, tá na Praça Mauá. Tá no frevo em Recife, nos States também tá. Fez história na Bahia, dizem até que nasceu lá. O samba tá aí, o samba tá. Tá no sangue daquele que sabe sambar. O samba tá aí, o samba tá. Tá no sangue daquele que sabe sambar. Quando desceu lá do morro, compadre, ele desceu numa boa. Manifestou emoção, o samba andou de avião.
Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui, avec quelques problèmes de tout, nous a donné des infos. Et merci à Antoine qui règle tous ces problèmes à la technique. Merci Antoine. Muchas gracias. Hasta pronto.
Daquele que sabe. meu parceiro nessa canção.